Le 14 novembre 2019, des dizaines de milliers de travailleurs de la santé sont en grève pour dénoncer l'état catastrophique des hôpitaux. Ils réclament l'arrêt des fermetures de lits, l'embauche de personnel et une augmentation générale des salaires de 300 euros. Dans un capitalisme en crise, tous les gouvernements ont sabré dans les budgets des services utiles à la population, pour dégager des dizaines de milliards d'euros versés en subventions aux grandes entreprises. La financiarisation croissante du système de santé a conduit à privilégier de plus en plus les activités rentables au détriment des besoins de la population. Conséquence de cette politique, c'est avec des moyens déjà insuffisants en temps dit normal que les hôpitaux doivent affronter l'épidémie de Covid-19.
Avant l'arrivée de la vague du Covid, l'hôpital de Mulhouse était dans un état très critique. J'ai vu des collègues infirmiers, aides-soignants et même des médecins démissionner pour aller bosser dans des cliniques privées, pour aller bosser en Suisse. Et même certains collègues qui ont changé de métier parce que les conditions de travail étaient catastrophiques et les salaires bas. L'hôpital de Mulhouse marchait aussi sur la tête. Par exemple, des médecins démissionnaires des urgences revenaient pour faire des gardes payées jusqu'à 2200 euros par 24 heures. Et à côté de ça, la direction disait aux équipes soignantes qu'ils voulaient une revalorisation de certaines primes, qu'il n'y avait pas d'argent.
Je suis infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et les premiers patients Covid y sont arrivés à la mi-février. On a bien vu dès le départ qu'on a dû se débrouiller tout seul. Les collègues des maladies infectieuses et tropicales, elles se sont très vite retrouvées isolées et à devoir tout organiser elles-mêmes. Voilà, elles ont essayé de dénoncer cet isolement, de vouloir que les autres collègues soient aussi formés et que ce ne soit pas à elles toutes seules de porter tout ce fardeau. Et la seule réponse qu'a eu la direction, ça a été de leur apporter du jus de pomme.
À l'hôpital de Mulhouse, nous avons pris le Covid en pleine figure. Il y avait le manque de personnel, mais aussi le manque de matériel. Début mars, nous avions très peu de masques, de surblouses ou de charlotte. Les directives de la direction étaient de donner les masques FFP2 aux réanimations. Pour les autres, les masques chirurgicaux ou alors rien. Sauf que l'hôpital tout entier, en quelques jours, était devenu une réanimation géante. On n'avait même pas eu le temps de se préparer, on était déjà débordé de toutes parts.
Donc ça fait des années qu'on ne bénéficie pas des formations qui sont nécessaires et qui seraient même obligatoires, comme le plan blanc, l'hygiène. Et ça, en pleine épidémie, on a dû gérer ce problème-là. On a dû se former sur le tas. Au bout de 3 semaines, 1 mois, la direction elle a enfin décidé de former le reste du personnel de l'hôpital. Et ça, c'est encore à notre charge. Ça a été un boulot supplémentaire, en fait, pour les collègues qui étaient dès le départ les deux pieds dedans. Et ça s'est rajouté à notre travail habituel de devoir former les collègues à l'habillage, de devoir former au ménage et aussi de former les collègues qui ont dû aller en réanimation et en soins continus.
Dans les premiers secteurs qui ont accueilli les patients atteints du Covid, le personnel a reçu une formation rapide pour mettre et enlever le matériel de protection, c'est-à-dire les surblouses, les charlottes, les masques, les surbottes, les gants, les lunettes. Et comme les stocks, ils ont fondu très rapidement, et bien le rationnement a commencé.
Donc en fait, très vite, on a manqué de tout un tas de matériel. On a manqué de surblouses, on a manqué de masques, voire de certains médicaments. Et vraiment, on s'est ressenti comme des soldats envoyés au front sans casque ni armes.
Donc les règles apprises au début étaient complètement inapplicables 15 jours après.
Vraiment, les recommandations d'hygiène, elles ont évolué en fonction de la pénurie de matériel. Par exemple, les masques, au début, on nous disait que les seuls qui étaient vraiment efficaces pour nous protéger, c'était les FFP2. Et puis très vite, on en a manqué. Et on nous a demandé de porter des masques chirurgicaux, donc déjà qui nous protégeaient moins. Et en plus, des masques qu'on n'est pas censé toucher, qu'on peut garder seulement 4 heures. Et là, on nous a demandé de les porter pendant une journée complète. Donc, ce qui voulait dire qu'on pouvait ni manger ni boire. Et quand on a évoqué ça à la direction, la seule chose qu'ils ont pu nous répondre, c'est qu'on peut rester une journée entière sans manger et sans boire.
Donc les chefs donnaient deux masques chirurgicaux, un FFP2 et deux surblouses par travail de 8 heures dans les services d'hospitalisation et 3 FFP2, 3 masques chirurgicaux dans les services en 12 heures de réanimation entre autres. Et dans ces services-là, pour les surblouses, eh ben, c'était en fonction des arrivages et des dons des entreprises. Cela pouvait être des combinaisons, des tenues en sac plastique, des blouses de supermarché. Et même les derniers temps, il fallait récupérer les blouses pour qu'elles soient lavées et remises en circulation. Il fallait s'adapter sans arrêt et réfléchir à comment ne pas se contaminer et ne pas contaminer les autres. Cela a beaucoup compliqué le travail. Et tout le monde a bien vu que les mesures d'hygiène officielles ont évolué au cours du temps en fonction du matériel à disposition. Dans les secteurs Covid, alors, tous les jours, on se demandait ce qui allait manquer comme matériel en tout genre et comme médicaments, dont les sédatifs. Tous les jours, on entendait « il manque de ci, il manque de là ». Et ça, ça a entraîné une vraie tension nerveuse importante, car on ne savait pas si on allait être fourni rapidement ou pas. Et donc, des collègues infirmières, cadres, médecins étaient chargés du lien avec la pharmacie et avec la logistique en permanence pour trouver des solutions temporaires. Et cela, tous les jours. Ça a vraiment reflété ce que c'est qu'une gestion à flux tendu des stocks, qui fait qu'en période d'épidémie, eh ben, ils sont incapables de répondre à la demande et il faut que des personnels déploient une énergie fantastique pour que cela marche quand même.
Pendant des jours à la télé, on aurait cru voir le débarquement en Alsace. En fait, ce n'était que quelques tentes, montées par des jeunes militaires sans aucune protection au sein de l'hôpital de Mulhouse. Beaucoup de pubs pour Macron et son gouvernement, mais sur le terrain, un peu moins de 30 lits occupés. Mais pas par les patients les plus graves. Certains cas les plus lourds étaient évacués dans d'autres hôpitaux en France ou à l'étranger. Tous les jours, des morts, parfois des dizaines par jour. La direction et l'agence régionale de santé se refusent encore à nous donner le nombre exact de morts à l'hôpital. Pour soigner tous les malades dès les débuts, il aurait fallu plus de blouses blanches et plus de matériel, et non pas quelques casques verts et des rangers.
Alors, à Rouen, on a été moins touché par l'épidémie, mais ça n'empêche que l'hôpital a été contraint de dépendre de la charité publique. Des associations, des artisans ont fait preuve de vraie générosité en nous apportant le matériel dont on manquait cruellement, les masques, des combinaisons, enfin voilà quoi. Mais à l'inverse, on a entendu les multinationales claironner devant les médias qu'ils allaient fabriquer des pièces de respirateurs, du gel hydroalcoolique, distribuer des bombes carburants. Ils se sont fait de la publicité vraiment pour pas cher, en se faisant passer pour altruistes, alors que leurs actionnaires se gavent d'argent public en permanence, et ce, au détriment justement des services utiles à la population et de la santé en particulier. Il y a 2 ans, Macron nous disait qu'il n'y avait pas d'argent magique pour la santé. Et là, il a su trouver des milliards pour aider les actionnaires des grandes entreprises.
Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel.
Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regardais...
On voit bien dans quel camp est l'État, quels que soient les gouvernements. Il est du côté des possédants, du côté des plus riches. Pour eux, des milliards. Pour nous, la charité, le dévouement, les risques et les belles paroles.
Donc ce manque de moyens de protection, il a eu des conséquences concrètes parce que sur l'ensemble des hôpitaux lyonnais, il y a à peu près 700 d'entre nous qui ont été testés positifs. Donc en plus, ça c'est des gens qui présentaient des symptômes, on n'a pas testé tous les autres, quoi. On voit bien aussi qu'il y a une conséquence directe entre le manque de moyens de protection et les personnes qui ont été contaminées. Parce que, par exemple, en gériatrie, où il manquait beaucoup de matériel, et ben c'est là où il y a plus de collègues qui ont été malades, en fait.
Sur le nombre de soignants infectés, les chiffres divergent entre la direction et la médecine du travail. Pour la direction, les chiffres plus que minorés sont d'environ 700. Pour la médecine du travail, les chiffres sont d'environ 1500 sur plus de 6000 salariés. Mais c'est encore sûrement loin de la réalité, vu qu'une grande partie du personnel avec des symptômes ou sans symptômes n'a pas été testé. Supprimer des postes, supprimer des lits, rogner sur le matériel, c'est mettre en danger les patients et les soignants. Tout ça pour du fric, c'est inadmissible.
Donc à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bordeaux, depuis le commencement de la crise, le directeur a fermé des unités pour libérer du personnel et des lits pour les patients psy malades de Covid. Donc c'était dans un premier temps, c'était 3 unités, donc ça fait quand même 80 patients que les équipes ont dû mettre dehors un peu de façon précipitée. Et pour lesquels ils sont quand même inquiets. Il y en a qui sont suivis au téléphone par des centres extérieurs, mais globalement, il y a des patients qui donnent plus de nouvelles et c'est l'inquiétude chez les équipes.
Pour accueillir les patients atteints du Covid, dont le nombre ne cessait d'augmenter, l'hôpital a dû se vider en 15 jours de tous ses patients habituels. Donc les consultations, les hôpitaux de jour et les hôpitaux de semaine ont été fermés, donc sauf la cancéro. Le suivi des patients urgents donc a continué par téléphone néanmoins. Les interventions aussi ont été annulées, sauf les urgences. Du coup, les blocs, les salles de réveil, les soins intensifs se sont transformés en réanimation, en récupérant du personnel des autres secteurs fermés et en récupérant aussi du matériel de tous les côtés pour pouvoir installer des lits de réanimation. Cela a demandé un travail énorme et personne ne peut l'oublier. Mais pour pouvoir faire face à cette épidémie, les patients habituels ont été mis de côté totalement. Cela veut bien dire que le manque de place dans les hôpitaux est tel que lorsqu'il y a une grande crise sanitaire comme celle que l'on vient de connaître, eh ben on ne peut pas prendre en charge tout le monde.
Des lits, il y en avait énormément. Voilà, ça a commencé à baisser dans les années 80. Et alors, à partir des années 90, ça a été la flambée. Les 96, ils voulaient 100 000 lits en moins. Alors, depuis 2002, il y en a 70 000. Déjà, c'était 60 000 et quelques, je crois, entre 2002 et 2015, qui ont été supprimés au nom du tout ambulatoire, mais aussi en fermant le long séjour, donc en transférant des lits dans les EHPAD, donc dans le privé aussi, hein, forcément. Voilà. Et ben, ces lits, ils manquent. Il manque toute l'année, hein. Il ne manque pas que pendant cette période Covid où il faut absolument hospitaliser des milliers, des centaines de gens en même temps, au même moment, là, rapidement. Non, il manque toute l'année pour prendre en charge correctement les malades.
Dans les secteurs Covid à l'hôpital, que ce soit en réanimation ou en hospitalisation classique, nous avons vécu des semaines à part, notamment par l'afflux de renforts venant de tous horizons, des intérimaires, des collègues de province, des infirmières et des aides-soignantes de consultation ou de blocs opératoires qui redécouvraient le travail en salle, et même des médecins désœuvrés par la fermeture de leur secteur sont venus prêter main forte. Les ratios habituels, tant de soignants pour tant de patients, n'étaient plus d'actualité, et même si personne n'était de trop, loin de là, vu la charge de travail, nous étions plus nombreux. D'anciens postes sont réapparus, comme les officières. Certaines étaient détachées à la préparation des repas et des carafes d'eau, afin que la zone alimentaire reste une zone propre, non Covid. D'autres étaient affectées à la gestion et la distribution des vêtements de travail, d'autres au stock de matériel et à sa distribution. Bref, tout était facilité pour que ceux qui étaient au plus près du patient, aux soins même, ne perdent pas de temps à d'autres tâches. Aujourd'hui, que les secteurs Covid reprennent leurs patients habituels, tout cela disparaît et les plannings d'avant reprennent leurs droits. C'est ce que nous ne voulons plus. Le retour à la normale, avec un L apostrophe.
Un autre aspect de l'épidémie qu'on a vu à l'hôpital, c'est que les collègues, elles ont dû être réaffectées dans les différents services Covid qu'il y avait ouverts. Et donc ça a mélangé complètement les équipes, y compris parfois ça changeait tous les jours, donc ça pouvait être source de stress. Par contre, ça a aussi créé des liens entre des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Par exemple, il y a les personnes du bloc opératoire qui sont allées en réanimation, ceux de chirurgie qui sont allés en médecine. Et ça nous a quand même tous unis dans la même galère contre la direction. Et voilà, il y a aussi tout un tas de barrières qui sont tombées entre les différentes professions.
Il y a des infirmières qui faisaient du ménage, des aides-soignants qui faisaient du brancardage. Et tout ça, c'est des liens qu'il va falloir conserver plus tard contre toutes les attaques qu'on va subir.
Alors, nous sommes l'équipe des ménages de l'hôpital.
Oui.
C'est juste pour faire notre coup de gueule, pour dire que nous, depuis qu'il y a Corona, on ne parle pas de nous.
Ouais.
Nous sommes oubliés.
C'est oublié, ouais, c'est vrai.
Le ministre de la Santé qui sort,
personne,
ne parle pas de
personne,
nous.
Personne, parce qu'il pense à nous.
Ni les médecins.
Personne ne parle de nous.
Ouais.
Pourtant, nous faisons partie de l'entretien de l'hôpital. Qu'est-ce que vous en dites, les filles?
Oui, oui, oui.
On
oui.
est là à 6h du matin, jusqu'à midi.
Voilà. Il y en a qui disent 6h du
tout
matin.
À raison.
Il y en a 7h jusqu'à 13h, 14h.
14h jusqu'à
14h. Oui, c'est ça.
Voilà.
Quand le médecin sort, et que l'infirmier sort, et que les soignants sortent, c'est nous qui faisons les restes dans la chambre,
voilà.
Que ça soit propre.
Malgré le peu de moyens, les conditions de travail pénibles, les soignants ont fait tout leur possible pour tenir, grâce à leur initiative et à leur solidarité. Ça n'empêche pas la direction à Mulhouse d'affûter son bistouri. Des collègues se voient réviser leur accident de travail, d'autres sont convoqués pour rendre des comptes sur des soi-disant erreurs commises durant la période de tension. Pendant toute cette période, on a appris à être solidaires les uns des autres. On peut dire que cela nous a changés. Eh bien, cette solidarité est une force. Et il faudra qu'elle s'exprime le plus largement possible face à tous ceux qui n'ont pas changé.
L'hôpital était déjà pris à la gorge par une dette de 10 millions. Et il y avait un plan de... d'économie en cours avec des annonces de fermeture d'unités. Et d'après le ministre de la Santé, ces annonces de plan devaient être suspendues le temps de la crise. Et on voit que le directeur, il profite de la crise, c'est comme ça qu'on l'interprète, parce qu'il continue à annoncer des fermetures d'unités, alors qu'il y a moins d'une vingtaine de patients Covid sur l'hôpital. Il profite de la crise pour accélérer son plan de fermeture de lit. Ça a provoqué donc une unité notamment qui tournait bien avec une équipe qui s'entendait bien de jeunes. Quand ces jeunes ont appris que leur unité était menacée de fermeture, ils se sont mis en colère, ils ont diffusé sur les réseaux sociaux l'information, leur indignation, et ça a été assez contagieux, leur colère. On a organisé le premier rassemblement auprès de la direction il y a 3 semaines, avec masque et distance de sécurité, banderole. Donc c'est nous qui ont organisé ça par réseaux sociaux, ateliers de banderole, de panneaux, et des slogans bien visés, notamment Covidage de lit, non merci, voilà, ça c'est la trouvaille du truc. C'est un peu le slogan plus tard. Voilà, stop aux fermetures de lit. Si on soigne là-haut, ils gèrent. Depuis, on a pris l'habitude, tous les mardis et jeudis, on se réunit à 14h30 au changement d'équipe. On n'est jamais moins de 50, et on a été jusqu'à une centaine. Et la semaine du 1er mai, on a même fait 3 rassemblements, donc mardi, jeudi et vendredi 1er mai, qui a été aussi un succès. On a renoué avec la tradition des 1er mai de lutte, quoi. C'était un 1er mai de lutte. Et les collègues présents, ils en étaient bien conscients. Il y avait un petit côté émouvant.
Oui, c'est vrai que nous avons eu la visite de Macron. Ça s'est vite su. Alors, comment ça s'est vite su? C'est que les collègues, elles ont vu tout de suite qu'il y avait des gens bizarres, voilà. Un costard, qui faisait un peu vigile, un peu personne de haute importance. Et donc, ça a fait comme une traînée de poudre. Tout le monde s'est appelé les unes les autres. Et elles ont interpellé Macron, parce qu'elles se sont aperçues qu'il était là. Donc lui, il a répondu comme à son accoutumée, une banalité. Hein. Après, il y a une de nous qui a proposé de s'applaudir, en fait. Et il y a quand même eu des revendications avant ça qui ont été dites, hein, entre autres d'avoir des revalorisations salariales, des embauches, ça a été dit. Donc on ne peut pas dire que le président de la République n'est pas entendu. Alors, il y a des vidéos qui ont circulé à ce sujet, et la vidéo officielle qui est paru ensuite sur le tweet là, de l'Élysée ou je sais pas quoi, montrait en fait c'était tronqué ce qui montrait parce que on voyait pas justement la collègue qui elle appelait à s'applaudir un peu soi-même quoi, enfin voilà. Et donc on voyait plutôt sur cette vidéo là que Macron était applaudi alors que pas du tout.
Donc la direction, elle s'est servie de l'épidémie à son propre avantage. Par exemple, sur l'hôpital de la Croix-Rousse, on était organisé dans un collectif qui dénonçait les conditions de travail, le manque de personnel, le manque de moyens aussi. Et elle a essayé donc de nous faire taire en interdisant les rassemblements. Un autre sujet, c'est sur les congés. Ça fait plusieurs années que la direction... veut maintenir les services ouverts l'été et ça sans embaucher de personnel. Donc ça a été un prétexte supplémentaire, l'épidémie, pour imposer des congés, y compris au plus fort de l'épidémie, à certaines collègues qui étaient disponibles et de nous demander de les réduire au mois de juillet et d'août.
Les UMD qui devaient fermer que le temps de la crise Covid, donc on a appris qu'elle n'ouvrirait qu'en septembre. Donc le dernier argument du directeur pour justifier la prolongation de ces fermetures, c'est d'expliquer que si les ouvraient, là, ils ne pourraient pas assurer les congés d'été.
Et s'annonce déjà un mois de mai, un mois de juin, sans RTT, sans vacances, enfin en tout cas... D'ores et déjà, il y a des services qui font faire les semaines de 7 jours. Dans les semaines de 7 jours, ça n'existe plus depuis les RTT quand même à l'hôpital public. Enfin, normalement, quoi, c'est interdit. Hein, on n'a pas le droit de faire plus que 6.
On apprend que les collègues en CDD sont arrêtés. Ils sont envoyés chez eux au chômage.
Donc les effectifs, nous on les veut. Nous là, ce qu'on réclame, c'est l'embauche de tous ces collègues.
Donc le mouvement ne faiblit pas. Hein, il perdure, 3 semaines après, on est toujours, aujourd'hui on était encore, aujourd'hui donc jeudi 7, on était encore 55 à 2h30.
L'annonce d'une prime de 1 500 € pour les hospitaliers a fait beaucoup réagir. Passé le côté beurre dans les épinards, les collègues ont tout de suite ironisé sur combien vaut un héros. Mais elles ont été choquées par l'injustice de son attribution même. Les différences entre ceux qui toucheront 1 500 ou 500 € selon qu'ils habitent, qu'ils travaillent dans tel ou tel département, qu'ils exercent dans tel ou tel hôpital, un grand centre de référence ou un petit hôpital de proximité. Et puis, il y a tout un tas de catégories qui ne vont rien toucher du tout. Les élèves infirmiers qui pourtant ont travaillé comme aides-soignants dans les services Covid, entre autres. Hein, et puis tous les collègues du ménage, de la sécurité ou du ramassage des poubelles qui sont dans des entreprises privées. Mais il y a eu aussi de la colère. Parce qu'à l'hôpital, comme ailleurs, les salaires sont très insuffisants et ont pris bien du retard. Alors tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une prime dont que nous voulons, mais bien des augmentations de salaire et des vrais, pas quelques euros. Le sentiment est que le gouvernement a fait de la com à moindre frais. Nous ne voulons pas de cette charité. Nous ne voulons pas être divisés. Et nous voulons, pour tous, des augmentations de salaire pour pouvoir vivre dignement.
Je crois également un tsunami de licenciements, hein, dans le privé, mais aussi dans le public, pour que tous ces cadeaux faits aux grosses entreprises soient payés, mais payés par nous-mêmes. Alors nous savons pertinemment que même ce qui est promis pour l'hôpital, ça risque aussi de passer aux oubliettes. Parce que de toute manière, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on y dira qu'il n'y a pas de pognon. Ou alors il faudra payer plus d'impôts.
Donc si on veut que l'hôpital y tienne, on veut de l'argent. On ne veut pas une prime. La prime, en plus, on veut que ça soit le personnel du ménage qui l'ait. ceux qui ont trimballé des tonnes d'ordures, les petites entreprises, il faut que vous fassiez pression sur leur patron, il faut qu'ils payent une prime de 1 500 € pour ces employés qui ont travaillé très dur. Donc là, il faut faire pression sur ces entreprises, hein, et que tout le monde l'ait. En plus, après, il faut, c'est pas 300 € qu'il faut, c'est bien plus pour garder notre personnel. Moi, je suis en réanimation, il y a la moitié d'effectifs, les 2/3 d'effectifs qui partent. Donc il n'y aura personne après. Si on veut garder ces gens-là, c'est pas 300, c'est 500. De l'argent, on veut de l'argent.
Ouais, de l'argent.
On veut de l'argent.
C'est pas si compliqué que ça. De l'argent, il y en a. Hein. On parle du trou de la sécu, mais l'État, il est capable de donner des milliards aux patrons à travers des crédits d'impôt, à travers des dégrèvements de charges sociales. Tout ça, c'est des milliards. Le crédit d'impôt compétitivité, c'était 41 milliards quand même. Donc, c'est le trou de la sécu qu'on nous annonce là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, je pense que régler en profondeur là, les problèmes des hôpitaux, hein, et de l'accès aux soins, eh ben, ça demanderait de s'attaquer à ce système capitaliste. Hein, et les vrais responsables, pas simplement un Macron ou n'importe quel président de la République ou gouvernement en place, hein, c'est s'attaquer aux vrais responsables de cette société qui tourne en fait pour les plus gros, pour que les profits puissent continuer à se faire, hein, et carrément en se faisant du fric sur le dos des travailleurs, mais y compris sur... écoutez, les deniers publics.
Et ce qui est essentiel, et ce qui a vraiment été nouveau, c'est que tout le monde ose demander des augmentations de salaire. Après ce qu'on a vécu là, tout le monde ose. On en a tellement bavé, et on sait qu'on va en baver. Donc des augmentations de salaire, c'est indispensable. Indispensable. Alors évidemment, les autres revendications, je suis archi d'accord, les lits, la formation, tout ce qu'il y a pour le personnel, bien entendu. Mais pour avoir ça, comment on va faire pour avoir ça? Vous avez vu Macron, ce qu'il a fait? Il fait des milliards aux entreprises automobiles qui sont en train de licencier. Pour ces milliards, si on veut les avoir pour nous, il va falloir battre avec les salariés de ces secteurs aussi. Et puis tout le monde a besoin des augmentations de salaire, hein, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le commerce, dans ceux qui ont participé justement à cette crise du Covid. Donc pour les avoir, ces milliards, ils vont s'y mettre tous. Et là, moi, je pense que tout le monde, c'est bien, mais c'est pas un social qu'il faut aux hôpitaux. C'est une participation active pour défendre son boulot aussi et son salaire aussi. Parce que c'est comme ça qu'on pourra faire pression sur ce gouvernement pour inverser la tendance. Pour ces milliards, ils n'aillent pas à ces salopards qui sont en train de licencier, mais pour nous, pour tout ce qui est utile à la population.
Et ce qui est sûr au niveau des effectifs, c'est que si on demande à chacun d'entre nous, dans n'importe quel service où on travaille, que ce soit à l'usine, vous demandez au plombier de l'hôpital, au jardinier, vous demandez à la secrétaire, vous demandez à n'importe qui, au brancardier, à la collègue qui est dans un labo, même dans un tout petit labo, technique et de pointe, hein, vous demandez à n'importe quelle infirmière, à n'importe quelle aide-soignante, à n'importe quel médecin, dans n'importe quel service, de n'importe quel hôpital, on sait, nous, ce qu'il nous faut pour travailler correctement au quotidien.
Changer l'hôpital, c'est comme changer la société. C'est-à-dire que si les travailleurs de l'hôpital prennent possession, on va dire, de l'hôpital, déjà, on arrête de donner plein de sous au privé. Et justement, avec cet argent, on pourrait quand même embaucher... le personnel suffisant.
L'hôpital, il y a trop de travail, à l'extérieur, il y a trop de chômage. Embauchez les chômeurs.
C'est toujours la même histoire dans cette société. Ce n'est pas les travailleurs qui décident, ce n'est pas les travailleurs qui ont le contrôle. Eh bien, c'est ça que j'ai envie, moi, c'est que nous ayons notre mot à dire, mais au-delà de ça, nous ayons le contrôle et que nous donnions les moyens d'imposer ce qu'il nous faut à cette société.
De l'argent pour l'eau.